Vivre dans un monde trop chaud, par National Geographic. L'humanité va devoir s'adapter à la hausse inéluctable des températures. Le corps humain a évolué pour pouvoir évacuer la chaleur par deux moyens essentiels. Les vaisseaux sanguins se dilatent, transportant la chaleur vers la peau, afin qu'elle l'irradie vers l'extérieur. La sueur apparaît sur la peau, qu'elle rafraîchit en s'évaporant. Lorsque ces mécanismes échouent, nous mourons. Ça paraît assez simple. En réalité, cet effondrement relève d'un processus en cascade complexe. La température interne d'une personne victime d'un coup de chaleur grimpe. Le cœur et les poumons fournissent alors plus d'efforts pour remplir les vaisseaux dilatés. À un moment, le cœur ne suit plus. La tension artérielle chute, entraînant vertige, perte d'équilibre et difficulté d'élocution. Le taux de sodium dans le sang diminue, les muscles se contractent. Désorientées, voire délirantes, de nombreuses victimes ne se rendent pas compte qu'elles ont besoin d'une aide immédiate. Quand le sang afflue vers la peau surchauffée, il dessert moins les organes. Il s'ensuit une série de réactions qui altèrent les cellules. Certaines victimes succombent avec une température interne d'à peine 40 degrés. D'autres peuvent supporter 42 degrés durant plusieurs heures. Le pronostic est en général plus mauvais pour les gens très jeunes ou âgés. Même en bonne santé, les personnes âgées sont nettement désavantagées. Les glandes sudoripares rétrécissent avec l'âge et de nombreux médicaments courants émoussent les sens. Souvent, les victimes ne ressentent pas assez la soif pour boire. Elles ne peuvent plus transpirer, n'ayant plus d'humidité en réserve. Il leur arrive même de frissonner. À ce stade, une crise cardiaque peut terrasser les personnes invalides. Celles en bonne condition physique peuvent souffrir de rétrécissement du champ visuel, d'hallucinations ou ressentir le besoin de se déshabiller quand les terminaisons nerveuses sont hypersensibles, les habits font l'effet de papier de verre. L'évanouissement est alors un soulagement car les vaisseaux sanguins commencent à perdre leur intégrité. Les tissus musculaires, dont ceux du cœur, peuvent lâcher à leur tour. De plus, quand l'appareil digestif commence à devenir perméable, les toxines pénètrent le flux sanguin. L'appareil circulatoire a un ultime sursaut, l'activation massive de la coagulation, laquelle menace encore plus des organes cruciaux, reins, vessies, cœur. La mort est proche. À l'été 2003, une zone de haute pression atmosphérique a stationné sur l'Europe centrale et de l'Ouest. Surchauffée au-dessus de la mer Méditerranée, cette masse d'air géante et tourbillonnante a repoussé les incursions d'air plus froid en provenance de l'Atlantique pendant plusieurs semaines. En France, le thermomètre a grimpé régulièrement, culminant pendant 8 jours à 40 degrés. Alors que la chaleur augmentait, les gens ont commencé à mourir. Nombre de médecins et de premiers intervenants étaient en vacances. Les hôpitaux ont vite été débordés. Les morgues saturées, des camions frigorifiques et des hangars alimentaires, dont ceux de Rungis, ont pris le relais. Les aides à domicile découvraient des patients gisant au sol ou morts dans leur fauteuil. La climatisation était rare dans les foyers français à l'époque. Appelée au secours, la police enfonçait les portes et ne trouvait que des cadavres derrière, se rappelle Patrick Pellou, président de l'Association des médecins urgentistes de France. C'était absolument épouvantable. Beaucoup de corps n'ont pas été découverts avant plusieurs semaines. La France a finalement attribué plus de 15 000 décès à la canicule et l'Italie près de 20 000. Plus de 70 000 personnes, le plus souvent pauvres, isolées et âgées, ont perdu la vie dans toute l'Europe. Les scientifiques ont établi plus tard que cet été-là, le plus chaud en 5 siècles, était clairement lié au réchauffement climatique. Les chercheurs associent de nombreux périls météorologiques au réchauffement climatique. Ouragans plus forts et plus destructeurs, épisodes de sécheresse, élévation du niveau des mers, saison de feux de forêt plus longue. Cependant, l'augmentation des épisodes caniculaires est la menace la plus intuitive et la plus immédiate. Plus les gaz à effet de serre se concentreront dans l'atmosphère, plus les fortes chaleurs dureront longtemps et plus certaines journées seront chaudes. À l'échelle mondiale, les 6 dernières années ont été les plus chaudes jamais relevées. En Europe, le terrible été 2003 n'était pas une anomalie statistique. Depuis, elle a connu de fortes vagues de chaleur à 5 reprises. Et 2019 a été marqué par des records historiques de température dans 6 pays d'Europe de l'Ouest, dont 46 degrés en France le 28 juin dans l'Hérault. À l'évidence, la solution définitive au réchauffement mondial est de réduire radicalement nos émissions de gaz à effet de serre. À défaut d'y parvenir, le nombre de décès annuels dus à la chaleur pourrait dépasser les 100 000 rien qu'aux États-Unis d'ici à 2100. En Inde, selon des études récentes, le nombre de morts pourrait atteindre 1,5 million. Et même si nous réussissons à limiter les émissions, la planète continuera de se réchauffer pendant des décennies. Un rouleau compresseur est en marche et il va bouleverser le mode de vie de la plus grande partie du globe. La chaleur extrême a des effets néfastes même si elle n'est pas mortelle. Des chercheurs associent les températures plus élevées avec une plus forte prévalence de naissances de bébés prématurés, en sous-poids ou morts-nés. L'épuisement dû à la chaleur a des répercussions sur l'humeur, le comportement et la santé mentale. Une météo plus chaude favorise la violence, quel que soit le niveau de revenu. Elle fait baisser les résultats aux examens scolaires comme la productivité. L'Organisation internationale du travail prévoit que d'ici à 2030, des niveaux élevés de chaleur réduiront les heures totales de travail de 2,2%. Cela équivaut à la disparition de 80 millions d'emplois à temps plein, en particulier dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Même dans les pays riches, les travailleurs en extérieur à faible salaire, comme dans le bâtiment ou l'agriculture, sont durement touchés. À l'horizon 2050, estiment des chercheurs de l'Université de Washington, la chaleur et l'humidité élevées dans le sud-est des États-Unis vont sans doute rendre toute la saison de croissance dangereuse pour le travail agricole avec les pratiques actuelles. Les êtres humains, avec leur culture et leur bétail, évoluent depuis 10 000 ans dans une niche climatique assez étroite, à une température moyenne annuelle de près de 12,8 degrés. Notre corps s'adapte aisément à des températures plus fortes, mais il y a des limites à la quantité de chaleur et d'humidité que nous pouvons supporter. Même un individu en excellente forme et habitué à la chaleur décède après quelques heures d'exposition à 35 degrés de température humide, une mesure combinée de la température et de l'humidité, qui tient compte de l'effet de refroidissement de l'évaporation. À ce stade, l'air est si chaud et humide qu'il ne peut plus absorber la transpiration humaine. Dans ces conditions, une longue promenade pourrait être fatale. D'ici à une cinquantaine d'années, prévoient des modèles climatiques, les températures humides en Asie du Sud et dans certaines parties du Moyen-Orient dépasseront régulièrement ce seuil crucial. D'ici là, alerte une étude parue en 2020 dans Proceedings of the National Academy of Science, un tiers de la population mondiale pourrait vivre dans des lieux similaires au Sahara actuel, où la température maximale moyenne dépasse 40 degrés en été. Afrique, Asie, Amérique du Sud, Australie, des milliards de personnes seront confrontées à un choix difficile, migrer vers des climats plus froids ou rester et s'adapter. Un pis-aller évident est de se réfugier dans des espaces climatisés. Or, la technique actuelle de la climatisation prend part au réchauffement du globe et est trop chère pour nombre de ceux qui en ont le plus besoin. Le problème de la chaleur extrême est lié à des enjeux sociaux plus vastes, tels que l'accès au logement, à l'eau et aux services de santé. Phoenix, en Arizona, est la ville la plus chaude des États-Unis. Plus de 110 jours à 37,8 degrés ou plus par an. Elle enregistre aussi régulièrement un nombre record de décès liés à la chaleur. En 2020, le comté de Maricopa a déploré 207 morts, un chiffre inédit, selon le bureau du médecin légiste. Ce service a l'obligation légale d'enquêter sur tous les décès non naturels, dont ceux liés à la température. Lorsqu'un décès possiblement dû à la chaleur est signalé, explique Mélanie Rouse, enquêtrice en chef du bureau, le personnel commence par interroger tous ceux qui ont côtoyé récemment le défunt. Transpirait-il? Se plaignait-il de maux de tête ou de nausées? Jardinait-il? Consommait-il alcool ou drogue qui interfèrent avec la thermorégulation? Nous tentons de découvrir quels changements sont intervenus dans sa vie, précise Mélanie Rouse. Nous essayons de voir s'il y a d'autres causes déterminantes de la mort. Sur le lieu du décès, les enquêteurs mesurent la température du corps et de la pièce. Le record enregistré en 2017, 62,8 degrés. Ils extraient l'humeur, vitrée du globe oculaire, car précise l'enquêtrice, les cellules se décomposent vite par forte chaleur, mais le globe oculaire est une zone protégée. Ce fluide sera analysé pour savoir si le défunt était déshydraté, s'il avait de l'hyperglycémie ou une fonction rénale diminuée, des facteurs qui accroissent la vulnérabilité à la chaleur. Un peu plus de la moitié des décès liés à la chaleur constatés dans le comté de Maricopa se produisent à l'extérieur, principalement parmi les sans-abri. De nombreux décès en intérieur surviennent dans des mobil-homes, difficiles à rafraîchir car mal isolés. Or, dans les pays les plus démunis, la situation est bien pire. En Inde, quand la température dépasse 40 degrés, les autorités publiques conseillent aux habitants de rester chez eux et de boire de l'eau fraîche. Ce conseil n'est d'aucune utilité aux dizaines de millions de personnes dont le domicile affiche une température supérieure à celle de l'extérieur et où il n'y a pas d'électricité pour faire fonctionner des ventilateurs ou des brumisateurs. Seuls 8% des foyers indiens ont la climatisation. Sans parler de ceux qui n'ont pas de maison du tout, telle Noor Jehan, 36 ans. Elle a toujours vécu dehors, dans un parc du sud de Delhi. Tous les matins, elle entasse ses maigres possessions près d'un mur d'enceinte. Pardon. Et se rend péniblement à pied jusqu'à son travail sur un chantier. Noor Jehan travaille même par 48 degrés. Comme des millions d'autres journaliers, elle ne peut pas nourrir ses trois enfants si elle manque le travail. Quand je rentre chez moi, dit-elle, il n'y a pas assez d'eau pour prendre un bain, nettoyer la saleté et la poussière et se rafraîchir. Sa source d'eau potable se trouve à plus de 1,5 km. Son mari est conducteur de pousse-pousse, sous-alimenté et déshydraté. Il s'évanouit souvent à cause de la chaleur. Afsana, la sœur de Noor Jehan, et ses trois enfants tiennent le coup en étalant des nattes sur le trottoir pour se reposer ou même pour dormir. Les voitures qui passent font un peu d'air, explique Afsana. À Phoenix, David Ondula, de l'Université d'État de l'Arizona, étudie les conséquences sociales et sanitaires d'une chaleur urbaine féroce. Récemment, il s'est mis à battre le pavé brûlant de la ville pour dresser la carte des meilleurs endroits où planter des milliers d'arbres d'ombrage, ce que font de plus en plus de villes du monde face à la hausse des températures. Une exposition moindre à la chaleur diminue le risque, observe Ondula. Mais je ne pense pas que planter des arbres suffise à empêcher des gens de mourir de chaud. Et quelle serait une réponse plus appropriée? Il répond sans hésiter. Améliorer l'accès à la climatisation.